Bonjour, aujourd'hui le Romain qui voulait détruire Carthage, Caton l'Ancien.
Un grand homme, c'est la rencontre d'un grand caractère avec de grands événements. André Malraux.
Ans d'histoire. Carthage doit être détruite, delenda est Carthago. Pendant des années, des générations d'écoliers ont découvert le latin en apprenant par cœur ces trois mots célèbres d'une figure légendaire de l'histoire romaine, Caton l'Ancien. Mort à 85 ans, 150 ans avant notre ère, il a incarné et défendu toutes les vertus qui avaient fait la grandeur de Rome. Grand magistrat, grand soldat et un des plus grands orateurs de l'Antiquité, traquant partout la corruption et l'ambition des généraux qui, bien avant Jules César, voulaient déjà transformer la République en empire, Caton fut surtout celui qui, au Sénat, avait demandé à Scipion de détruire le seul obstacle qui se dressait encore en face de la toute-puissance de Rome.
Le Sénat s'impatiente, Scipion. Il exige la destruction de Carthage.
Cours dire au consul qu'il leur ordonne de rejoindre le cantonnement. Et toi, va dire à Asdrubal que Scipion est prêt à recevoir le messager du Sénat de Carthage si celui-ci accepte, sans les discuter, les conditions de paix de Rome. Demain, ce sera notre tour d'attaquer et de reprendre la Byrsa. Et ce sera la fin de Carthage.
Jean-Noël Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un des tournants de l'histoire de l'Antiquité, la destruction de Carthage, voulue par une des figures les plus célèbres de l'histoire romaine, à laquelle vous venez de consacrer la première biographie en français, donc Caton l'Ancien, dont vous dites que c'est un personnage essentiel dans l'histoire de Rome. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait de lui un être exceptionnel dans une histoire romaine qui en a connu beaucoup?
Qui en a connu beaucoup, certes, mais exceptionnel pour deux raisons principalement. La première, c'est d'abord sa personnalité, j'allais presque dire son physique, un personnage qu'il faut imaginer de petite taille sans doute, mais rouquin, le regard vif, une voix de stentor, une résistance physique à toute épreuve, une force de la nature, autrement dit, avec des compétences universelles multiples que vous avez rappelées rapidement. Et l'autre raison, celle qui était donnée par la citation d'André Malraux il y a un instant, c'est qu'il se situe à un tournant capital de l'histoire de Rome et qu'il l'a vécu sur une longue période, qu'il l'a accompagné, qu'il l'a même guidé, ce virage de l'histoire. Et par conséquent, il est l'un de ceux qui ont garanti à Rome de pouvoir garder son identité, ce qui est quand même essentiel.
Une longue période parce qu'il a vécu 85 ans. À l'époque, dans l'Antiquité, ce n'était pas courant.
Alors, premièrement, ce n'est pas courant, c'est vrai, bien qu'il y ait quelques centenaires, ça pouvait arriver, mais c'est vraiment très très peu. Mais surtout, ce qui est encore moins courant, c'est que jusqu'au dernier jour de sa vie, ou presque, il a pu être présent au Sénat, faire entendre sa voix, et avoir toute son intégrité intellectuelle et physique, et ça, je crois que c'est vraiment rare.
Et cela donc, après 85 ans d'existence, il est né tout près de Rome, à Tusculum, je crois que c'est Frascati aujourd'hui, qui est la ville une ville célèbre pour son vin en Italie.
Oui, très beau paysage, dans ses collines verdoyantes, très riches, effectivement, très joli village.
Et il est d'origine plébéienne, hein, ce qui n'a pas rendu facile son accession au pouvoir et sa carrière politique.
Absolument, surtout à une époque où finalement, pour pouvoir faire carrière, il fallait plutôt appartenir à la noblesse. Il est ce que l'on appelle un homo novus, un homme nouveau, c'est-à-dire que personne dans sa famille avant lui n'avait occupé une fonction de magistrat importante. Or, il faut le préciser, pour donner la mesure des choses, à parvenir au fait du pouvoir comme lui, il ne furent que quatre homme nouveau à son époque à le faire, ce qui montre bien que effectivement les places étaient rares.
Vous parlez d'événements exceptionnels. À quoi ressemblait Rome quand il est né en 234 avant Jésus-Christ? Je crois que ce n'était pas du tout la puissance qu'elle est devenue. C'était un État parmi d'autres
C'est
dans
un
le
État
monde
parmi d'autres, effectivement. Je dirais deux choses. La première, c'est que d'abord, Rome, à cette époque-là, domine l'Italie. Mais quand je dis domine, je ne veux pas dire qu'elle est la puissance unique en Italie. Il y a un certain nombre de peuples qui composent l'Italie, qui sont sous la domination de Rome, mais qui ont encore leur semi-autonomie, on va dire, et qu'on appelle les Alliés. Par conséquent, on ne peut pas parler d'unification italienne. La première unification italienne aura lieu en 88 avant notre ère. La seconde, beaucoup plus tard, comme chacun sait.
Il y a les Gaulois, par exemple, au nord de l'Italie.
Il y a les Gaulois au nord de l'Italie. Oui, quand je parle d'Italie, je veux dire depuis la hauteur de Florence, on va dire, jusqu'à la pointe de la Botte, non comprise encore la Sicile. Et puis, il y a eu le premier contact avec l'extérieur de l'Italie, la première guerre punique, qui a eu lieu au milieu, on va dire, de ce deuxième siècle, de ce troisième siècle, pardon, avant notre ère. Donc, au moment où Caton vient au monde, l'Italie n'est pas encore unifiée, elle commence à se tourner vers la Méditerranée, et Rome est une ville, allez, on va le dire, encore sale, avec des ruelles, des gens qui sont souvent peu fortunés, enfin, peu confortables. C'est vraiment une ville qui ne brille pas à côté des villes grecques.
Et menacée par Carthage, lorsqu'en 218, donc Caton a 16 ans à l'époque, Hannibal attaque les Romains en passant par les Alpes, le début de la deuxième guerre punique.
Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants.
Écoutez! Écoutez!
Silence!
Hannibal est en train de passer les Alpes.
Nos garnisons sont partout en fuite. Rutilius connaît bien ces montagnes. Il retardera la marche du Carthaginois.
Les Carthaginois! Voilà les Carthaginois!
Alors c'est le début de la deuxième guerre punique, l'arrivée de Hannibal en Italie, c'était... Tous les Italiens, enfin tous les Romains étaient terrorisés, d'autant plus qu'il a occupé l'Italie après sa victoire de Cannes, hein, 45 000 Romains tués. Pendant 15 ans, il est resté en Italie. C'est dans ce contexte que Caton a commencé sa carrière politique, Jean-Noël Robert.
Tout à fait. Une panique, on va dire, généralisée. Une grande peur, parce que ce sont les lois de la guerre dans l'Antiquité. Si Hannibal avait eu l'idée, au lendemain de sa victoire de Trasimène en 217, de marcher sur Rome, il l'apprenait sans coup férir. Rome n'existait plus. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre le latin, nous apprendrions le carthaginois. Bon, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et en fait, Hannibal, semble-t-il, a eu d'autres desseins. Il a eu justement envie de désolidariser de Rome ces autres peuples alliés dont je parlais tout à l'heure et par conséquent de les ramener à lui contre Rome. Ça n'a pas vraiment marché parce que Rome a pu se reprendre petit à petit et pied à pied regagner le territoire de l'Italie qu'Hannibal lui avait confisqué.
Alors c'est à ce moment-là que Caton commence une carrière politique. On pourrait peut-être rappeler comment ça se passe la vie politique à Rome. Sa première fonction de magistrat, c'était questeur. Hein. Qu'est-ce que c'était questeur?
Alors, disons brièvement que effectivement, quand on fait une carrière politique à Rome, l'on doit suivre, pardonnez-moi, on doit suivre les étapes de ce que l'on appelle le cursus honorum, c'est-à-dire une espèce de hiérarchie qui est à suivre d'échelons qu'on suit en progressant, en montant, et on commence par des fonctions administratives touchant à la fois les finances, mais en étant officier à l'armée quand il y a la guerre, comme c'est le cas, celle de questeur. Puis ensuite, on est édile, puis ensuite on est prêteur.
Édile, c'est grosso modo conseiller municipal, quoi.
On s'occupe de ravitaillement de Rome, de la sécurité, de la police, etc. Ensuite, il y a le prêteur, qui lui va déjà être un magistrat supérieur et qui, en outre, va s'occuper aussi de beaucoup de justice. Et le poste suprême, c'est celui, j'allais dire, de premier ministre, c'est celui de consul. Sauf qu'ils sont deux.
Oui, c'est la cohabitation, déjà.
Voilà. D'une certaine façon seulement, parce que c'est une prudence de la part des Romains qui ne voulaient pas voir revenir les rois. Et il fallait toujours qu'au même au sommet de l'État, il y eut deux personnes pour au moins que l'une puisse contredire l'autre si des envies de folie, de grandeur lui prenaient.
Consul qui commandait également aux armées, c'est à ce moment-là.
C'est également le chef de l'armée.
Caton a tout fait. Il était grand soldat aussi, il était magistrat, il était édile, il était questeur.
Voilà, c'est un magistrat remarquable, très intègre, très intransigeant, mais c'est aussi un général très apprécié de ses soldats, qui a notamment pacifié l'Espagne pendant son consulat, et ce n'était pas rien.
Alors revenons à ses débuts. Il est questeur dans l'armée de celui qui sera son grand rival, Scipion l'Africain, nommé consul en Sicile, avant d'aller se battre en Afrique contre les Carthaginois. Un ambitieux dont se méfie Caton au Sénat. On écoute un extrait du film Scipion l'Africain de Carmine Gallone.
Scipion en appellera au peuple. Tu entends, Caton? On doit freiner son ambition. Ses victoires l'ont aveuglé. Il convoite l'Afrique. Il n'aura pas la Sicile. Il ira quand même. Il y a une loi. Ne va en Afrique que le consul à qui on confie la Sicile. Caton a raison.
Caton et Scipion, c'était vraiment deux personnages qu'on trouve, bon, bien sûr, dans votre livre, puisqu'il est consacré à Caton, mais Scipion, c'était son grand rival. Une rivalité entre deux hommes, mais aussi entre deux conceptions de ce que doit être Rome, Jean-Noël Robert.
Oui, absolument. Et je voudrais dire que, d'ailleurs, dans cet extrait que nous entendons et qui se place à l'époque où Caton est questeur, la légende est plus prégnante ici que la réalité, parce que en fait Caton n'a pas encore le pouvoir pour pouvoir s'opposer à Scipion. Simplement, deux politiques effectivement, la politique de ceux qui veulent voir perdurer les valeurs traditionnelles de Rome. Caton est parmi eux, il en est le porte-parole. Caton n'est pas un être isolé dans ce domaine politique, mais comme il parle plus fort que tout le monde et qu'il parle très bien, on le prend, comme le dit Plutarque, pour le pilote. Les sénateurs de ce bord le suivent et en font leur porte-parole. Et de l'autre côté, nous avons déjà ces généraux, les Scipions et quelques autres qui sont influencés par la Grèce, par l'Orient, et qui voient dans leur position politique une sorte de leadership, c'est-à-dire comme si le chef était prédestiné par les dieux à gouverner, ce qui est évidemment contraire totalement à la mentalité romaine où le chef n'est que délégué pour un moment des citoyens. Et Caton est ce citoyen parmi tant d'autres.
Mais c'est déjà César, quand vous parlez de Scipion, qui spécule sur ses victoires, sur les triomphes que lui rapporteront ses victoires pour devenir empereur. D'ailleurs, vous dites que c'est à l'époque de Scipion, 150 ans avant Jules César, qu'on commence à parler d'impérator. Ses soldats, les soldats de Scipion, quand il était en Espagne, le paraît du titre d'impérator qui était réservé à Jupiter, au dieu.
C'est la première fois, effectivement, que ce titre religieux va être attribué par des soldats à un homme, et ça sera à Scipion.
Et ça, Caton, évidemment, n'en veut aucun prix. Il défend la République romaine, qui en a encore pour 150 ans à vivre. Et alors, il va dans l'armée de Scipion, il va en Sicile, puis il ira ensuite à Carthage. Il va dans l'armée de Scipion, et puis alors, il contrôle, comme questeur, il contrôle toutes les dépenses de Scipion, et il lui reproche beaucoup de choses. Vous écrivez, dit-il à Scipion, Caton dit à Scipion, « Ton plus grand tort n'est pas de dépenser, mais de gâter la simplicité naturelle des soldats qui emploient au plaisir et au luxe ce qui excède leurs besoins. » Alors Scipion est furieux et lui répond, « Je n'ai nul besoin d'un questeur si exact quand je navigue à pleine voile vers la guerre, et je dois compte à l'état de mes actions, non de mes dépenses. »
Voilà. Alors, je précise aussi qu'il s'agit là, attribué à Caton à cette époque-là, d'un trait légendaire que Caton usera, dont Caton usera un peu plus tard. Mais c'est vrai que le grand combat de Caton pendant toute sa vie, ça va être le combat contre la luxuria, c'est-à-dire contre le luxe, contre cet amollissement des corps et des esprits qui risque de mettre Rome à la botte de la Grèce. Et c'est quand même un non-sens. Rome qui arrive à être le vainqueur, qui domine l'Orient méditerranéen en l'espace de 50 ans, ce qui est une prouesse extraordinaire, je parle du début du deuxième siècle, et soudain, on voit les esprits romains culturellement se ranger presque derrière la culture grecque. Ça, Caton ne le veut pas. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer et en faire cet anti-grec qu'on a voulu lui décerner, mais on a voulu lui faire dire cela parce que c'est un personnage exceptionnel. En réalité, Caton, lui, a voulu adapter, assimiler, permettre à Rome de digérer cette culture grecque sans perdre son identité. Caton, c'est un peu l'image de la conscience nationale, d'une certaine façon.
La Grèce qui fascinait des gens comme Scipion, justement, dont le modèle, c'était Alexandre le Grand.
Ah oui, et ça, ce qu'on appelle les pro-hellènes, n'est-ce pas, ceux qui sont pour la Grèce.
Et lui était un anti-hellène, était contre la Grèce. Et alors, il défendait les vertus de la Rome de Romulus et Rémus, de Rome de ses débuts. La vertu à Rome, c'était quelque chose, Jean-Noël Robert.
La vertu, ça veut dire quoi, d'abord ? Ou plutôt les vertus. Alors, le mot lui-même est composé sur le mot vir, qui veut dire l'homme. C'est la faculté d'être un homme, c'est-à-dire de servir sa patrie et aussi de lui faire des fils qui puissent la défendre. C'est ça le sens premier. Mais ça comprend plein de vertus. Et notamment, parmi les plus célèbres, il y a la fides, le fait pour un Romain d'être loyal, le respect de la parole donnée. Ce sont les grands héros de Rome. C'est par exemple Régulus qui a fait la première guerre punique et qui est revenu pour aider les Romains à vaincre Carthage et qui ensuite est retourné se faire supplicier parce qu'il l'avait promis aux Carthaginois. Ou c'est encore Cincinnatus. Tout le monde connaît ce Cincinnatus, l'abnégation du citoyen romain qui va sauver sa patrie puis qui revient Gaulois, ensuite à sa charrue. N'est-ce pas ? Ce sont ces traits de grandeur d'esprit que Caton défend dans les vertus romaines.
Puis la simplicité, Alors là, il partage la nourriture et la vie de ses soldats, par exemple, ce que ne font pas les généraux, les autres généraux.
Effectivement, il est même tellement soucieux des deniers de l'État qu'avant de rentrer d'Espagne, il vend son cheval pour que Rome n'ait pas à supporter le prix de son transport.
Puis très intègre, hein, il refuse de faire ce que font beaucoup de généraux, c'est-à-dire de prendre une partie du butin de ses soldats quand il gagnait une guerre, notamment par exemple en Espagne. Il est parti en Espagne, Caton, où il s'est bien battu, mais alors il est revenu sans rien.
Il est revenu sans rien pour lui. Il a donné la récompense normale pour les soldats et effectivement, il a laissé la part du butin au trésor public.
Et des qualités donc qui ont fait l'admiration des historiens romains, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, pour tous les auteurs romains qui écrivent bien après sa mort, Caton est un véritable mythe, hein, c'est l'incarnation de la vertu romaine et ceci dans tous les registres. Rien ne fut étranger à son extraordinaire activité, affirme par exemple Cornelius Nepos. À la fois cultivateur expert et politique habile, bon jurisconsulte, remarquable général, orateur digne d'éloge et grand ami des lettres. Et par exemple, Plutarque écrit « Dans la bataille, Caton avait la main prompte à frapper, le pied ferme et inébranlable, le visage farouche. » Mais Caton, vous l'avez dit, est avant tout un modèle moral. « Irréprochable et intègre », écrit Tite-Live. Caton était réputé pour son extrême sévérité dans sa lutte contre l'usure. Autres exemples de sa grande vertu, il ne porta jamais un habit qui valut plus de 10 drachmes, rapporte encore Plutarque.
Ça fait combien en euros, ça ?
J'ai pas très bien. Et je sais pas quel genre d'habit ça peut permettre d'acheter. Enfin bon. Et Plutarque ajoute, et même quand il était prêteur ou consul, il buvait le même vin que ses ouvriers. Jamais, en aucune circonstance, il n'imposa de dépenses somptuaires au trésor. Il faisait le tour de la ville à pied, sans attelage. Une intégrité teintée aussi d'une certaine austérité. Les hommes n'ont reçu de la nature aucun fléau plus funeste que les plaisirs corporels. C'est en tout cas ce que Cicéron lui fait dire. Alors pour Caton, la luxure à un pays, c'est la Grèce. D'après Pline, donc un autre auteur, Caton aurait déclaré « Les Grecs constituent une race absolument perverse et impossible à tenir en bride. Quand ce peuple nous donnera sa littérature, il corrompra tout chez nous. » Dans sa vie privée, Caton apparaît comme le parfait pater familias romain. Un bon père, constate Plutarque, un excellent mari et un remarquable administrateur de ses biens. Mais semble-t-il, Caton n'aime pas que les femmes sortent de leur rôle d'épouse soumise pour réclamer leur dû. Il faut se méfier, dit-il, de ces êtres rebelles qui veulent une liberté totale, ou plutôt le droit de faire n'importe quoi. Si en effet elles gagnent cette première partie, où s'arrêteront-elles ? Grande question. Et semble-t-il encore à la maison, Caton mène son petit monde à la baguette. Sitôt après le repas, raconte Plutarque, Caton punissait du fouet les esclaves coupables de quelque négligence dans le service ou la préparation du banquet. Si un esclave était soupçonné d'avoir commis un crime digne de mort, il le faisait juger et, s'il était reconnu coupable, le faisait exécuter devant tous les domestiques. Mais pour Tite-Live, l'essentiel est ailleurs. Caton, reconnaît-il, eut sans doute un caractère difficile, la langue mordante et une franchise immodérée, mais surtout, il eut une âme que ne gouvernaient pas les passions, une intégrité intransigeante au mépris des faveurs et des richesses.
D'après ces textes que l'on retrouve dans votre livre, Jean-Noël Robert, votre livre sur Caton, c'est vraiment un austère, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors c'est un austère qui, en plus, avait la langue extrêmement mordante, et pour vous donner un exemple de ses traits, n'est-ce pas, un jour, par exemple, sur le forum, il rencontre un jeune homme qui sortait d'un lupanard et ce jeune homme est évidemment par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en rencontrant le terrible censeur et le censeur le félicite. Il lui explique qu'il a raison d'aller voir les prostituées plutôt que de déshonorer une matrone romaine car la morale interdisait d'avoir des relations avec les femmes romaines mariées. Et le lendemain, au même endroit, le jeune homme ressort du même lieu et retombe sur Caton, un peu plus rassuré cette fois-ci, et Caton lui dit « Je t'ai félicité hier d'être allé voir les prostituées, je ne t'ai pas dit d'y habiter.
» Oui, c'était un austère, passablement misogyne. Si on l'entend dans un des textes de Stéphanie, il avait par exemple, vous le rappelez, voulu empêcher l'abrogation d'une loi dont il voulait le maintien, la loi Oppia, qui interdisait aux femmes de posséder de l'or, de posséder des vêtements vêtements de porter des vêtements de couleur vive ou de se déplacer en voiture attelée. Alors c'était vraiment, c'était un misogyne.
Oui, je ne crois pas justement. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Cette loi avait été votée pour faire des économies et pour avoir de l'argent avant, au début de la Seconde Guerre punique plutôt. Et évidemment, après, la victoire étant venue, les Romaines réclamaient de retrouver leur train de vie. Et Caton avait bien conscience que, justement, avec tout cet argent qui arrivait, toute cette richesse qui venait de Grèce et d'Orient, si chacun se laissait aller à ce train de vie, eh bien, on risquait d'avoir des débordements et un amollissement comme celui dont nous parlions tout à l'heure. Alors, précisément, il luttait contre cela et c'est pour ça qu'il voulait limiter ce retour au luxe des matrones. Mais pas seulement pour les matrones. Et c'est là qu'est le mauvais procès qu'on lui fait, car en réalité, il fait le même reproche aux hommes. Et n'oublions pas que la femme romaine à l'époque n'est pas libre, elle dépend de son mari, ce n'est pas du tout le statut juridique qu'elle connaîtra même plus tard et surtout aujourd'hui. Par conséquent, il ne s'agit pas vraiment de misogynie. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Caton aimait sa femme, la respectait, n'est-ce pas ? Mais il y avait une façon...
Oui, mais enfin...
une façon de se tenir. Il y avait une dignité que l'on devait respecter. On ne devait pas descendre dans la rue. Si vous permettez juste une anecdote, parce que ça me repasse par l'esprit, c'est quand même formidable. Caton a chassé du Sénat un jour un sénateur qui avait osé embrasser sa femme devant leur fille. Parce qu'à l'époque, on ne se laissait pas livrer à ses effusions et lui-même n'embrassait sa femme que les jours d'orage parce qu'elle se réfugiait dans un cabinet noir. Et par conséquent, là, il en profitait. Il nous dit plus tard qu'il aimait beaucoup quand Jupiter tonnait.
Alors ce dont il ne profitait pas, j'en ai Robert, c'est les bacchanales. Il faut expliquer ce que c'est, parce qu'il a voulu les interdire. Quelque chose qui est considéré comme une espèce de conjuration, c'était des orgies, tout simplement.
Alors, en fait, c'est beaucoup plus que ça. On ne sait pas s'il a vraiment voulu, lui, les interdire, mais il a certainement fait partie de ceux qui ont évidemment agi contre, parce qu'il s'agit de l'arrivée à Rome des cultes orientaux. Et ça, c'était très grave, parce que cette initiation par des femmes, en supplément, de jeunes gens, telles qu'elles étaient pratiquées à Rome dans ce rite des bacchanales, était une usurpation des traditions romaines. Car enfin, les jeunes gens doivent être élevés par les Romains, par les citoyens hommes, et au grand jour, et non pas lors d'initiation. Donc c'est un danger pour la morale publique.
Au point qu'il parle d'ailleurs d'épuration, hein, il y aura 7000 arrestations, tous les hommes vont être exécutés.
Ah, c'est sa campagne de censeur. Bah oui, parce qu'il y avait des campagnes électorales aussi. Hein.
Censeur, on l'appelle Caton le censeur parce qu'il est devenu censeur, justement.
Voilà.
Censeur, c'est la plus haute dignité qu'on puisse avoir à Rome, après consul.
C'est une dignité suprême dans la mesure où c'est un contrôle total sur la morale et sur les finances et sur les hommes. Et effectivement, il l'a exercé avec une très grande intégrité. Ils sont deux censeurs, avec son ami Valerius Flaccus. Et cette censure a laissé dans les esprits un caractère exemplaire, hein, pour les siècles à venir. Même 200, 300 ans plus tard, on faisait encore référence à Caton.
Le censeur, il faut le rappeler, recensait les citoyens, mais aussi contrôlait les mœurs. Alors, il va rester très actif pendant 40 ans, hein, jusqu'à l'âge de 85 ans. Il meurt en livrant ses derniers combats politiques. Encore, vous le rappeliez tout à l'heure, contre Carthage, réclamant au Sénat la destruction de la ville et déclenchant ainsi la troisième et dernière guerre punique en 146 avant Jésus-Christ.
La menace est toujours là. L'heure est venue d'en libérer Rome pour toujours. Je suis convaincu, Père conscrit, que pour vaincre et terminer la guerre, il faut absolument passer avec l'armée en Afrique. Hannibal, chassé d'Italie, la guerre ne sera pas finie tant que Carthage ne sera pas définitivement anéantie.
Alors c'était Caton réclamant la destruction de Carthage en 149, puisqu'il est mort avant la destruction, j'ai dit en 146, mais 146 c'est la destruction de Carthage. Il réclame la destruction de Carthage, il l'obtient, Carthage sera détruite après sa mort. Jean-Noël Robert, pourquoi cet acharnement contre cette ville-là? C'était plus un danger, Hannibal était mort, Carthage avait été vaincu avec la deuxième guerre punique.
En 153, il a fait partie, Caton, d'une ambassade, donc déjà bien vieux, à Carthage. Il a été surpris de voir comment Carthage se remontait. N'oublions pas qu'il avait souffert, comme tous les Romains, et bien peu pouvaient s'en souvenir, car ils étaient presque tous morts, de la Seconde Guerre punique et d'Hannibal en Italie. Donc il y a une espèce de syndrome pour résister et pour protéger en quelque sorte l'Italie. C'est pour protéger l'Italie qu'il faut abattre Carthage.
Une guerre préventive en fait.
Oui, et non pas du tout pour avoir une idée d'expansionnisme quelconque dans l'esprit de Caton. Et il a eu un instrument, un moyen de les persuader. Il est revenu de Carthage avec des figues. Et il a montré ça aux sénateurs. Il leur a dit, regardez mes figues comme elles sont belles. Et tout le monde s'est extasié. Il dit, vous savez, je les ai cueillis à Carthage il y a 2 jours de cela. Alors vous voyez, si les figues sont encore belles 2 jours après, quand les Carthaginois seront là, vous voyez ce que ça va donner.
C'était dans la version latine, ça aussi.
Ah, ça rappelle ce qui était dit. Vous savez, quand il y a la guerre froide, on disait que l'URSS, les chars russes, étaient à une étape de Tour de France de Paris.
Ça marque les esprits, oui. Ça impressionne.
Alors il est mort en 149, donc, et puis alors il reste une figure légendaire. D'ailleurs, même dans l'Italie fasciste, puisqu'on a entendu des extraits du film de Carmine Gallone, ils ont été tournés à l'époque de Mussolini. On voulait à ce moment-là assimiler Mussolini à Scipion, celui qui allait conquérir un empire, contre Caton, celui qui l'en empêchait, qui défendait la République. Au fond, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut résumer ce qu'était Caton, le défenseur de la République et des vertus
et des valeurs de la République. Absolument. Je crois qu'on l'a gardé tout au long des siècles et on s'en est servi, même au Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, on apprenait à lire aux enfants dans les maximes morales de Caton.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Caton? Parce que vous dites qu'il est resté célèbre. Il y a un grand écrivain français, enfin un écrivain français, Berkoff, qui signait ses imprécations contre le système de Caton. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On en parle beaucoup moins.
On en parle beaucoup moins parce que je crois que la culture, et notamment la culture historique, je n'ose même plus parler du latin, se trouve très très éloignée des préoccupations de nos chères têtes blondes. Donc, par conséquent, Caton n'étant pas un guerrier émérite, comment dit-on, de Star Wars, c'est ça? Eh bien, il a peu de chance d'être dans les esprits de la jeunesse d'aujourd'hui, mais il reste encore quand même quelques personnes qui sont allées au lycée en un temps où on y apprenait quelque chose, et je crois que ces personnes-là savent encore un peu qui est Caton.
Et qui peuvent retrouver le personnage de Caton, justement, dans votre biographie, la première en français, qui vient d'être publiée aux éditions Belles Lettres, Caton ou le citoyen. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Scipion l'Africain, de Carmine Gallone, distribué en cassette chez Ciné Vidéo Film, Carthage en flamme, également de Carmine Gallone, distribué par VIP Video Club, et enfin Hannibal de Bragaglia, disponible en cassette chez Hollywood Video. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et Christian Buton, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Cette émission avait été diffusée le 20 mai 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le Comintern.